Quatrième partie. La révolution scientifique. Chapitre 14. La découverte de l'ignorance. Imaginons un paysan espagnol qui se serait endormi en l'an 1000 pour se réveiller 5 siècles plus tard, au vacarme des marins de Christophe Colomb embarquant à bord de la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Le monde lui aurait paru très familier. Malgré les multiples changements de technique, de mœurs et de frontières politiques, ce Rip Van Winkle du Moyen-Âge eût été à l'aise. Mais un matelot de Christophe Colomb, qui aurait sombré dans un sommeil analogue pour se réveiller à la sonnerie d'un iPhone du 21e siècle, se retrouverait dans un monde étrange, voire totalement incompréhensible. Une pensée pourrait bien lui traverser l'esprit. Serait-ce le paradis ? À moins que ce ne soit l'enfer. Les 500 dernières années ont connu un essor phénoménal et sans précédent de la puissance de l'homme. En 1500, le monde comptait autour de 500 millions d'Homo sapiens. Ils sont aujourd'hui 7 milliards. La valeur totale des biens et services produits par l'espèce humaine en 1500 est estimée à 250 milliards en dollars actuels. De nos jours, la valeur d'une année de production humaine approche les 60 billions de dollars. En 1500, l'humanité consommait autour de 13 billions de calories par jour, contre 1500 billions actuellement. Regardez bien ces chiffres. La population humaine a été multipliée par 14, la production par 240 et la consommation d'énergie par 115. Imaginez un cuirassé moderne transporté au temps de Christophe Colomb. En l'espace de quelques secondes, la Niña, la Pinta et la Santa Maria ne seraient plus que bois flotté. Puis, il coulerait la flotte de toutes les grandes puissances de l'époque sans une égratignure. 5 cargos modernes auraient pu embarquer tout le fret assuré par les flottes marchandes du monde entier. Le plus grand cargo contemporain peut transporter autour de 100 000 tonnes. Alors qu'en 1470, l'ensemble des flottes du monde ne pouvait pas transporter plus de 320 000 tonnes, et qu'en 1570, le tonnage total atteignait 730 000 tonnes. De même, un ordinateur moderne n'aurait aucun mal à stocker tous les mots et tous les chiffres de tous les codex, livres et rouleaux de toutes les bibliothèques médiévales, en gardant de la place. N'importe quelle grande banque aujourd'hui détient plus d'argent que tous les royaumes du monde prémoderne réunis. La plus grande banque du monde, la Royal Bank of Scotland, déclarait en 2007 des dépôts d'une valeur de 1,3 trillion de dollars, soit 5 fois la production annuelle mondiale en 1500. À cette époque, peu de villes comptaient plus de 100 000 habitants. La plupart des constructions mêlaient boue, bois et paille. Un bâtiment de 3 niveaux était un gratte-ciel. Les rues étaient des voies creusées d'ornières, poussiéreuses en été et boueuses en hiver, où se bousculaient piétons, chevaux, chèvres, poules et quelques charrettes. Les bruits urbains les plus courants étaient les voix humaines et les cris d'animaux, sans oublier les bruits occasionnels de marteaux ou de scie. Au crépuscule, le paysage urbain était plongé dans le noir, avec juste une bougie de loin en loin ou une torche qui scintillait dans l'obscurité. Si un habitant d'une ville pareille pouvait voir Tokyo, New York ou Bombay, qu'en penserait-il ? Avant le XVIe siècle, aucun être humain n'avait fait le tour de la Terre. Tout changea en 1522, quand l'expédition de Magellan regagna l'Espagne après un périple de 72 000 km, qui demanda 3 ans et demi et coûta la vie à presque tous les membres de l'équipage, y compris Magellan. En 1873, Jules Verne imagina que Phileas Fogg, riche aventurier britannique, pourrait faire le tour du monde en 80 jours. De nos jours, tout membre de la classe moyenne peut faire le tour du monde en 48 heures. En 1500, les hommes étaient cloués à la surface de la Terre. Ils pouvaient bâtir des tours et escalader des montagnes, mais le ciel était réservé aux oiseaux, aux anges et aux dieux. Le 20 juillet 1969, les hommes à l'unir. Ce fut non seulement un exploit historique, mais aussi un tour de force de l'évolution, voire une prouesse cosmique. En 4 milliards d'années d'évolution, aucun organisme n'avait réussi à quitter l'atmosphère terrestre, encore moins à laisser une empreinte de pas ou de tentacules sur la Lune. Pendant la majeure partie de l'histoire, les hommes ne surent rien des 99,99% des organismes de la planète, c'est-à-dire des micro-organismes. Non qu'ils ne fussent d'aucun intérêt pour nous. Chacun de nous porte en lui des milliards de créatures unicellulaires. Loin de faire cavalier seul, ce sont nos meilleurs amis et nos plus redoutables ennemis. Si les uns digèrent notre nourriture et nettoient nos boyaux, d'autres créent des maladies et des épidémies. Pourtant, c'est seulement en 1674 que l'œil humain vit pour la première fois un micro-organisme, quand Anthony van Leeuwenhoek jeta un coup d'œil à travers son microscope maison et fut éberlué de découvrir tout un monde d'animalcules grouillant dans une goutte d'eau. Au cours des 3 siècles suivants, les hommes ont fait connaissance avec un nombre immense d'espèces microscopiques. Nous sommes parvenus à vaincre la plupart des plus redoutables maladies contagieuses qu'elles provoquent et avons mis les micro-organismes au service de la médecine et de l'industrie. Aujourd'hui, nous utilisons des bactéries pour produire des médicaments, fabriquer des biocarburants et tuer des parasites. Mais le moment de loin le plus remarquable des 500 dernières années survint le 16 juillet 1945, à 5h29min45s. À cet instant précis, les hommes de science américains firent exploser la première bombe atomique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. À compter de cet instant, l'humanité a eu la capacité non seulement de changer le cours de l'histoire, mais d'y mettre fin. Le processus historique qui a conduit à Alamogordo et sur la Lune est connu sous le nom de révolution scientifique. Au cours de celle-ci, l'humanité a acquis d'immenses pouvoirs nouveaux en investissant des ressources dans la recherche scientifique. Il s'agit bien d'une révolution parce que, jusque vers l'an 1500, les hommes du monde entier ont douté de leur capacité à obtenir de nouveaux pouvoirs médicaux, militaires et économiques. Tandis que pouvoirs publics et mécènes allouaient des fonds à l'éducation et à la recherche, le but était en général de préserver les capacités existantes et pas d'en acquérir de nouvelles. Le souverain prémoderne typique donnait de l'argent aux prêtres, aux philosophes et aux poètes dans l'espoir de les voir légitimer son règne et de maintenir l'ordre social. Il n'attendait pas d'eux qu'ils découvrent de nouveaux médicaments, inventent de nouvelles armes ou stimulent la croissance économique. Au cours des 5 derniers siècles, les hommes ont fini par croire de plus en plus qu'ils pouvaient augmenter leur capacité en investissant dans la recherche scientifique. Et ce n'était pas simplement foi aveugle. La chose se vérifia maintes fois empiriquement. Plus les preuves se multiplièrent, plus les riches et les États furent disposés à investir des ressources dans la science. Jamais nous n'aurions pu marcher sur la Lune, manipuler des micro-organismes et scinder l'atome sans de tels investissements. Au fil des dernières décennies, par exemple, le gouvernement américain a consacré des milliards de dollars à l'étude de la physique nucléaire. Les connaissances issues de cette recherche ont rendu possible la construction de centrales nucléaires qui fournissent de l'électricité bon marché aux industries américaines, lesquelles payent des impôts qui servent à leur tour à financer la recherche en physique nucléaire. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction de la révolution scientifique. La science n'a pas seulement besoin de recherche pour progresser. Le progrès dépend du renforcement mutuel de la science, de la politique et de l'économie. Les institutions politiques et économiques apportent les ressources sans lesquelles la recherche scientifique est presque impossible. En contrepartie, la recherche scientifique donne de nouveaux pouvoirs qui servent, entre autres choses, à obtenir de nouvelles ressources, dont une partie est ensuite réinvestie dans la recherche. Pourquoi l'homme moderne a-t-il cru toujours davantage à la capacité d'obtenir de nouveaux pouvoirs par la recherche ? Comment s'est forgé le lien entre science, politique et économie? Ce chapitre se penche sur la nature unique de la science moderne pour apporter des éléments de réponse. Les 2 chapitres suivants porteront sur la formation de l'alliance entre la science, les empires européens et l'économie du capitalisme. Ignoramus. Les hommes se sont efforcés de comprendre l'univers au moins depuis la révolution cognitive. Nos ancêtres n'ont compté ni leur temps ni leurs efforts pour essayer de découvrir les règles qui régissent le monde naturel. Mais à trois égards critiques, la science moderne diffère des traditions précédentes en matière de savoir. Petit a. L'empressement à s'avouer ignorant. La science moderne repose sur le constat latin « ignoramus », nous ne savons pas. Elle postule que nous ne savons pas tout. De manière encore plus critique, elle accepte que ce que nous croyons savoir pourrait bien se révéler faux avec l'acquisition de nouvelles connaissances. Il n'est pas de théorie, d'idée ou de concept sacré qu'on ne puisse remettre en question. Petit b. La place centrale de l'observation et des mathématiques. Forte de cet aveu d'ignorance, la science moderne est en quête de nouvelles connaissances. Elle procède en recueillant des observations et en se servant d'outils mathématiques pour rattacher ces observations en théorie d'ensemble. Petit c. L'acquisition de nouveaux pouvoirs. La science moderne ne se contente pas de créer des théories. Elle se sert de celles-ci pour acquérir de nouveaux pouvoirs et notamment mettre au point de nouvelles technologies. La révolution scientifique a été non pas une révolution du savoir, mais avant tout une révolution de l'ignorance. La grande découverte qu'il a lancée a été que les hommes ne connaissent pas les réponses à leurs questions les plus importantes. Les traditions prémodernes du savoir, comme l'islam, le christianisme, le bouddhisme et le confucianisme, affirmaient que l'on savait déjà tout ce qu'il était important de savoir du monde. Les grands dieux, ou le dieu tout-puissant, ou les sages du passé, possédaient une sagesse qui embrassait tout et qu'ils nous ont révélée dans les écritures et les traditions orales. Le commun des mortels accédait à ce savoir en se plongeant dans les textes anciens et les traditions et en les comprenant convenablement. Il était inconcevable que la Bible, le Coran ou les Védas fussent passés à côté d'un secret crucial de l'univers. Un secret qui pourrait encore être découvert par des créatures de chair et de sang. Les traditions anciennes en matière de connaissance n'admettaient que deux sortes d'ignorance. Premièrement, un individu pouvait ignorer quelque chose d'important. Pour le savoir, il suffisait de solliciter quelqu'un de plus sage. Il n'était aucun besoin de découvrir une chose que personne ne savait encore. Par exemple, si un paysan d'un village du Yorkshire au XIIIe siècle voulait connaître l'origine de l'homme, il supposait que la tradition chrétienne possédait la réponse définitive. Il lui suffisait d'interroger son curé de paroisse. Deuxièmement, une tradition entière pouvait ignorer des choses sans importance. Par définition, tout ce dont les grands dieux ou les sages d'antan ne s'étaient pas donné la peine de nous parler était sans importance. Par exemple, si notre paysan du Yorkshire voulait savoir comment les araignées tissent leur toile, il était absurde de le demander au prêtre, parce qu'il n'y avait de réponse à cette question dans aucune des écritures chrétiennes. Non que le christianisme fût déficient. Cela voulait simplement dire qu'il n'était pas très important de savoir comment les araignées tissent leur toile. Après tout, Dieu le savait parfaitement. Si c'était une information capitale, nécessaire à la prospérité et au salut, Dieu en aurait donné une explication circonstanciée dans la Bible. Le christianisme n'interdisait pas aux gens d'étudier les araignées, mais les spécialistes des araignées, s'il en existait dans l'Europe médiévale, devaient admettre leur rôle périphérique dans la société et accepter que leur découverte n'ait aucun intérêt pour les vérités éternelles du christianisme. Quoi qu'un savant pût découvrir sur les araignées, les papillons ou les pinsons de Darwin, ses connaissances n'étaient guère plus que des bagatelles, sans incidence sur les vérités fondamentales de la société, de la politique et de l'économie. En vérité, les choses n'ont jamais été aussi simples. De tout temps, même aux époques les plus pieuses et conservatrices, des hommes prétendirent qu'il y avait des choses importantes dont toute la tradition était ignorante. Mais ils furent habituellement marginalisés ou persécutés, ou trouvèrent une nouvelle tradition et se mirent alors à affirmer qu'ils savaient tout ce qu'il y avait à savoir. Mahomet débuta sa carrière religieuse en condamnant ses frères arabes qui vivaient dans l'ignorance de la vérité divine. Mais lui-même ne tarda pas à affirmer qu'il savait toute la vérité, et ses disciples se mirent à l'appeler le sceau des prophètes. Dorénavant, plus besoin de révélations en sus de celles de Mahomet. La science moderne est une tradition de connaissance unique, dans la mesure où elle reconnaît franchement l'ignorance collective concernant les questions les plus importantes. Darwin n'a jamais prétendu être le sceau des biologistes, ni avoir élucidé, une fois pour toutes, l'énigme de la vie. Après des siècles de recherches scientifiques soutenues, les biologistes admettent n'avoir toujours pas de bonne explication de la manière dont le cerveau produit la conscience. Les physiciens admettent ne pas savoir la cause du Big Bang, ni comment concilier la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale. Dans d'autres cas, des théories scientifiques concurrentes sont au cœur de débats acharnés sur la base des nouveaux éléments qui ne cessent de surgir. Ainsi, des débats sur la meilleure façon de gérer l'économie. S'il y a toujours des économistes pour prétendre que leur méthode est la meilleure, l'orthodoxie change à chaque crise financière et bulle spéculative, et il est généralement admis que le dernier mot en matière de science économique reste à dire. Dans d'autres cas, les éléments de preuve disponibles corroborent si systématiquement des théories particulières que toutes les autres solutions ont été de longue date délaissées. Ces théories passent pour vraies, bien que tout le monde accepte que si de nouveaux éléments apparaissaient en contradiction avec la théorie, il faudrait la réviser ou s'en débarrasser. La théorie de la tectonique des plaques ou la théorie de l'évolution en sont de bons exemples. L'empressement à avouer son ignorance a rendu la science moderne plus dynamique, souple et curieuse que toute tradition antérieure en matière de savoir. Cette disposition a considérablement élargi notre capacité à comprendre comment marche le monde et à inventer de nouvelles technologies. Mais elle nous pose un sérieux problème que la plupart de nos ancêtres n'ont pas traité. Notre hypothèse courante, que nous ne savons pas tout et que même les connaissances que nous possédons sont provisoires, s'étend aux mythes partagés qui permettent à des millions d'inconnus de coopérer efficacement. S'il apparaît que nombre de ces mythes sont douteux, comment assurer la cohésion de la société? Comment nos communautés, nos pays et notre système international peuvent-ils fonctionner? Tous les essais modernes pour stabiliser l'ordre sociopolitique n'ont eu d'autre solution que de recourir à l'une de ces deux méthodes fort peu scientifiques. Petit a. Prendre une théorie scientifique et, en opposition aux pratiques scientifiques courantes, déclarer que c'est une vérité définitive et absolue. C'est la méthode qu'utilisèrent les nazis, prétendant que leur politique raciale était le corollaire de faits biologiques, et les communistes affirmant que Marx et Lénine avaient deviné des vérités économiques absolues à jamais irréfutables. Petit b. Laisser la science en dehors et vivre en accord avec une vérité absolue non scientifique. Telle a été la stratégie de l'humanisme libéral, lequel repose sur une croyance dogmatique dans la valeur unique et les droits des êtres humains. Mais cette doctrine n'a fâcheusement pas grand-chose à voir avec l'étude scientifique d'Homo sapiens. Cela ne devrait cependant pas nous surprendre. La science elle-même doit s'appuyer sur des croyances religieuses et idéologiques pour justifier et financer ses recherches. La culture moderne n'en a pas moins été prête à embrasser l'ignorance à un degré bien plus élevé que toute culture antérieure. Une des choses qui a permis aux ordres sociaux modernes de tenir ensemble est l'essor d'une croyance quasi-religieuse à la technologie et aux méthodes de la recherche scientifique qui ont remplacé jusqu'à un certain point la croyance aux vérités absolues.